Daf Yud Bet Amud Bet, en bas du Hamoud, deux points. Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad Vechule, Rabbi Akiva Omer Azé Vazé Nechleku. Donc, on a vu dans la Mishnah deux avis. L'avis d'un Talmid qui l'a rapporté au nom de Rabbi Ishmael auprès de Rabbi Akiva, qui dit que la machloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel est seulement lorsque la largeur du Mavoï étant entre 4 Amot et 10 Amot. Mais si la largeur du Mavoï fait moins de 4 Amot, la même Bet Shammai sont d'accord qu'il suffit d'un Lechi ou d'une Kora et qu'on n'a pas besoin des deux. Et Rabbi Akiva, lui, dit non, Alze Valze Nechleku, ils sont en machloquette sur les deux cas, c'est-à-dire même lorsque le Mavoï fait moins de 4 Amot de large, l'entrée du Mavoï fait moins de 4 Amot de large, malgré tout, Bet Shammai pense que il faut mettre et un Lechi et une Kora. Donc moi, demande Rabbi Akiva et nous Tanakama. Mais Rabbi Akiva, c'est pareil que Tanakama, parce que Tanakama, lorsqu'il a rapporté l'avis de Bet Shammai et Bet Hillel, il n'a pas fait la distinction entre 4 Amot et moins de 4 Amot. Donc c'est-à-dire que lui aussi pense que Bet Shammai sont en machloket avec Bet Hillel, même lorsque le Mavoï fait moins de 4 Amot. Agma répond, Ika binayu de Rav Achle, veitema Rav Yechiel, velo mesayme. La différence entre Tanakama et Rabbi Akiva, c'est le din qui a été rapporté plus haut au nom de Rav Achle, ou selon certains Rav Yechiel, que un Mavoï qui fait moins de 4 Fachim de large, dont l'entrée fait moins de 4 Fachim de large, qu'on n'a rien besoin de faire à l'entrée de ce Mavoï, ni Lechi ni Kora. Donc c'est ça le point de Machloket entre Tanakama et Rabbi Akiva. Velo Mesaime, et c'est pas défini qui est-ce qui pense comment. Ça veut dire que on ne sait pas si c'est Tanakama qui pense comme Rabbi Yechiel ou Rabbi Akiva. Et c'est donc ce qu'on avait vu plus haut dans la Gemara lorsque Rav Papa avait posé une question contre le din de Shmuel qui ne s'accordait pas avec le din de Rabbi Yechiel. La Gemara avait répondu que en réalité ce din de Rabbi Yechiel est une machloquette entre les Tanaïm. C'est à ça que la Gemara faisait référence, à la machloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. Tania, on a enseigné dans la Braïta, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, Lo Amar Rabbi Ishmael Davarze. Donc, dans la Braïta, on rapporte quelle a été la réaction de Rabbi Akiva lorsque ce Talmid lui a rapporté ça au nom de Rabbi Ishmael. Il a dit, Lo Amar Rabbi Ishmael Davarze. Il a dit, c'est sûr que Rabbi Ishmael n'a pas dit cette chose-là, parce que Rabbi Ishmael, qui est Chacham, savait que la machloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel était même lorsque la largeur de l'entrée du Mavoï faisait moins de 4 Amot, et là, Autotalmid Amar Davarze, Ve'alacha que Autotalmid. Mais c'est cet élève lui-même qui a dit cette chose-là, et là, Alacha est comme cet élève. Agma demande à Goufa Kashia. C'est contradictoire en soi. Amar Talo Amar Rabbi Ishmael Davarze, Almalet El Cheta Kavate. Tu dis que Rabbi Ishmael n'a pas pu dire une chose pareille, parce que Rabbi Ishmael est Chacham, donc c'est pas possible qu'il ait dit une chose pareille. Donc c'est-à-dire que l'Alacha n'est pas comme ça. Va'adar Amar Talacha Koto Talmid. Et après, Rabbi Akiva dit que l'Alacha est comme cet élève. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Lo Amar Rabbi Akiva El Alechadet Ba Talmidim. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que Rabbi Akiva n'a dit ça que pour aiguiser les Talmidim, c'est-à-dire pour les pousser à eux aussi réfléchir et émettre des svarot ou des hypothèses, comme ce Talmid qui a émis une hypothèse qui était en réalité quelque chose d'acceptable, sauf que ça ne correspondait pas à la réalité, qu'il n'a pas entendu ça de Rabbi Ishmael, donc la halakha n'est pas comme ça, mais il voulait signifier à ses élèves que c'est effectivement une bonne approche de vouloir réfléchir et d'essayer de trouver des svarot pour certains cas qui n'ont pas forcément été traités. Et Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Nir'i Nitmar. Et Rav Nachman Bar Yitzchak, dans une autre explication, il dit que quand il a dit, il n'a pas dit Alakha qui est au Talmid, il a dit Nir'in livré au Talmid, ça veut dire que ce que ce Talmid dit, c'est logique, sauf que c'est pas vrai la Alakha, ça veut dire, il ne s'agit pas ici de Alakha, puisque de toute la façon, Alakha n'est pas comme Bet Shammai, toute cette discussion c'est concernant Bet Shammai, mais ça veut dire que c'est logique ce qu'il dit s'entend. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, Kol makom shatam otzi mishum Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad lifnei Rabbi Akiva, Eno Ela Rabbi Meir. Donc il dit que à chaque fois qu'on rapporte qu'un Talmid a dit quelque chose au nom de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva, il s'agit, ce Talmid c'est Rabbi Meir. Sheshimesh et Rabbi Ishmael va être Rabbi Akiva, puisque lui était proche de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Il s'est attaché à Rabbi Ishmael et à Rabbi Akiva pour apprendre de toute leur approche dans la Torah. Netanya, comme on enseigne dans la Breta, Amar Rabbi Meir a dit, Shaiti etzel Rabbi Ishmael, Haiti metil kankatom letoch adio, velo amar li davar. Donc Rabbi Meir dit que à l'époque où il était auprès de Rabbi Ishmael, il avait l'habitude de mettre du cancantum. Alors cancantum, c'est du sulfate de cuivre. Il mettait du sulfate de cuivre dans l'encre qu'il utilisait pour écrire les sfarim, donc ce qu'on appelle les sifra kodesh, tous les sfarim du Tanakh. Donc Rabbi Meir était sofer et il avait l'habitude de mettre ce produit-là dans l'encre. Et Rabbi Ishmael ne m'a rien dit. C'est-à-dire qu'il était d'accord avec ça. Que chez Bati et Rabbi Akiva, un sarah alay. Mais quand je suis venu auprès de Rabbi Akiva, il me l'a interdit. Donc, alors on verra plus loin dans l'agma pourquoi est-ce que ce serait interdit de mettre du sulfate de cuivre dans l'encre. Mais en tous les cas, ce qu'on voit de cette braïta, c'est que Rabbi Meir a été successivement l'élève de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. D'abord de Rabbi Ishmael et après de Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael était d'accord avec ce qu'il faisait de mettre du cancantum dans l'encre, mais pas Rabbi Akiva. Et Agma s'étonne justement sur ces deux points, elle dit, Ini, mais est-ce que c'est vrai? Ve'amar Rabbi Yehuda amar Shmuel mishum Rabbi Meir. Pourtant Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, qui est rapporté au nom de Rabbi Meir, Shaiti lomed etzel Rabbi Akiva, haiti metil cancantum letor hadio, velo amar li davar. Donc Rabbi Meir a dit que quand il étudiait auprès de Rabbi Akiva, il mettait du sulfate de cuivre dans l'encre, et Rabbi Akiva ne lui a rien dit, Urshe Bati et Rabbi Ishmael, et lorsque plus tard je suis venu auprès de Rabbi Ishmael, Amarli Beni Mamelartecha, il m'a demandé, mon fils, quel est ton travail, Amartilo Lavlarani, je lui ai dit, je suis sofer, Amarli Beni Evezair Bimlartecha, Shemelartecha Melechet Shamaimi, et il m'a dit, mon fils, fais attention dans ton travail, parce que ton travail est un travail de mitzvah. Ça veut dire qui est délicat à cause de ça. Shema ta mechaser otachat o meyater otachat. Tu risques d'enlever une lettre ou d'ajouter une lettre. Nimtseta machriv et kol haolam kulo. Et tu peux détruire tout le monde de cette manière-là. Rashi donne des exemples. Il dit par exemple, il y a le pasouk qui dit va Hashem Elokim Emet. Un pasouk dans Yirmiya. Si dans le mot Emet il enlève le Aleph, Chas v'shalom, c'est de la kfira. Ou alors, dans le mot Vaidaber Hashem, si il ajoute un vav à la fin de Vaidaber, Vaidabrou, il le dit au pluriel, c'est aussi, il y a un élément de kfira là-dedans. Amartilo, et Rabbi Meir dit, je lui ai répondu, j'ai répondu à Rabbi Ishmael, Davar echad yeshli v'kankantom shemo shani matil tochadio. J'ai un produit qui s'appelle le kankantom que je mets dans l'encre. Alors, Gmara va expliquer après quelle réponse il lui apporte à ce qu'il lui a dit. Amarli, Rabbi Ishmael m'a dit, vechim etilin kankantom letor hadio. Mais est-ce qu'on peut mettre du sulfate de cuivre dans l'encre? Valo amra Torah vekatav umacha, ktav sheyachol imachot. Mais pourtant, la Torah a dit, vekatav umacha. Ça s'écrit à propos de la paracha de Sota. Donc, lorsque une femme a été prévenue par son mari de ne pas s'isoler avec un autre homme, et qu'elle s'est isolée avec cet homme, et on ne sait pas si il y a eu une avéra entre eux ou pas, alors il faut l'amener au Beth Amikdash, chez le Kohen, qui va prendre le paragraphe où s'écrit donc les klalotes, les malédictions de la Sota, il va le tremper dans de l'eau du Kiyor mélangée avec d'autres choses, dans un pot en argile, jusqu'à ce que ça s'efface, jusqu'à ce que cette paracha s'efface, et il lui fait boire l'eau. Et de cette manière, ça va la tester, est-ce qu'elle a fait une avéra ou pas. Si elle a fait une avéra, son ventre va éclater, etc. Et donc, dans le pasouk, s'écrit Vekatav Umacha, et il écrira Umacha, et après il effacera. Donc ça veut dire que ça doit être une écriture qui peut s'effacer. Donc on voit qu'on ne peut pas mettre du cancantum dans l'encre, parce que le cancantum empêche l'encre de s'effacer. Alors Agma donc demande, on voit ici dans cette deuxième version, qu'au contraire, Rabbi Meir était d'abord chez Rabbi Akiva, et seulement plus tard il a été chez Rabbi Ishmael, à l'inverse de la première version. Et deuxièmement, c'est Rabbi Akiva qui a accepté qu'il mette du cancantum dans l'encre, et Rabbi Ishmael qui n'était pas d'accord. La Gemara commence par expliquer quelle était la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et entre Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, pardon. Et la Gemara demande Maïka Amarle ou Maïka Meaderle. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael lui a dit et qu'est-ce que Rabbi Meir lui répond? C'est-à-dire en quoi le fait de lui dire je mets du cancantum, ça répond à ce que Rabbi Ishmael lui a dit, puisque Rabbi Ishmael lui a pas parlé de quelque chose qui allait s'effacer, et donc le cancantum l'empêcherait de s'effacer. Il lui a dit n'écris pas des lettres en plus ou en moins. Il m'a dit, Achika Amarle, voilà ce qu'il lui a dit, l'homme est vaya bechaserot ou beyeterot de l'otaina de Bakiana. Il a dit, non seulement, je ne risque pas d'enlever des lettres ou d'en rajouter, je risque pas de me tromper, parce que je connais très bien, la Torah, je sais exactement comment ça s'écrit. Et là, filou mechash les zbouv nami, d'ilmaate veyati vatage de dalet ou machikri ou machvele resh. Mais même, pour un risque éloigné, donc, qui est, une mouche qui efface une lettre. Comment ça? Ça veut dire qu'une mouche risquerait de venir s'installer sur l'arrière du dalet, la partie qui est derrière le pied du dalet, si elle l'efface. Donc si la mouche, en s'installant là-bas, elle va effacer l'arrière du dalet et en faire un rech, puisque toute la différence entre le dalet et le rech, c'est justement cette partie arrière. Dans le reste, c'est arrondi, il n'y a pas une partie qui dépasse derrière, alors que dans le dalet, il y a une partie qui dépasse derrière. Il dit, même ça, je fais attention que ça n'arrive pas. D'avoir echad yeshli le cancantum shemo, shani matil et tochadio. J'ai un produit qui s'appelle le cancantum que je mets dans l'encre, et ce produit fait que on ne peut pas vraiment l'effacer, donc ça risque pas de s'effacer. Et Agma conclut maintenant avec la question de la contradiction des deux versions. Kashia shimush a shimush, kashia asara a asara. Il y a une contradiction d'abord par rapport à l'ordre du shimush. Est-ce qu'il s'est d'abord attaché à, comme dans la première version, d'abord à Rabbi Ishmael et après Rabbi Akiva, ou le contraire, comme la deuxième version, d'abord Rabbi Akiva et après Rabbi Ishmael, et deuxièmement, qui c'est qui a interdit le cancantum? Est-ce que c'est Rabbi Akiva comme dans la première version, ou Rabbi Ishmael comme dans la deuxième? La Gemara dit Bishlama shimush a shimush la kasha. Alors la première partie de la contradiction de l'ordre dans lequel il a été d'abord et chez qui il était après, ça c'est pas contradictoire. Pourquoi? Mais Ikara Atal Kamé de Rabbi Akiva. Au départ, on peut dire que il était au départ chez Rabbi Akiva, ou Midelo Matsene Mekam Alibe Atal Kamé de Rabbi Ishmael. Mais comme il a vu qu'il ne pouvait pas comprendre ce que Rabbi Akiva disait, parce que Rabbi Akiva avait cette capacité d'expliquer toutes les hypothèses, et donc il ne savait pas ce qu'il pensait réellement et quelle était la halakha. Donc, Atal et Kamé de Rabbi Ishmael, il a quitté Rabbi Akiva pour aller chez Rabbi Ishmael, mais Gamar Gamara, et chez lui, il a appris, il a engrangé des connaissances, donc c'est-à-dire qu'il a appris toutes les Mishnayot pour savoir la halakha, Vadar Atal et Kamé de Rabbi Akiva, mais savoir Svara. Et ensuite, il a été chez Rabbi Akiva pour développer la svara, donc c'est-à-dire pour comprendre la profondeur des choses. Il avait déjà la matière qui lui permettait de travailler ce que Rabbi Akiva lui disait. Et là, Sarah Kashia. Mais les deux versions, on a une contradiction. Qui est-ce qui a interdit le cancantum? C'est contradictoire, effectivement. Agma répond Kashia. Effectivement, ça reste une question. Tania, on enseigne à Breta, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, Rabbi Meir Aya Omer. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, la kol metilim cancantum le tochadio, chutz mi parashat sota. On peut mettre du cancantum dans l'encre pour écrire tout en dehors du paragraphe de sota. Ça veut dire, même dans le Sefer Torah, on peut utiliser de l'encre avec du cancantum, sauf quand on écrit ce passage du paragraphe de la sota. Rabbi Yaakov omer mishmo, chutz mi parashat sota sheba migdash. Alors que Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Meir que il n'a pas parlé de la paracha de Sota du Sefer Torah, mais en dehors de la paracha de Sota qui était écrite au Beth Amikdash pour servir pour la Sota, là il fallait pas mettre de cancantum dans l'encre. Donc la différence entre eux, c'est est-ce qu'on peut utiliser pour la Sota le paragraphe qui a été écrit dans la Torah? Est-ce qu'on peut prendre ce paragraphe qui a été écrit dans un Sefer Torah et l'utiliser pour la sota? Selon la première version de Rabbi Yuda au nom de Rabbi Meir, on peut l'utiliser, donc il faut prendre la précaution de ne pas mettre de calcatum dedans pour que ça puisse s'effacer. Alors que d'après Rabbi Yaakov, selon sa version de ce que Rabbi Meir a dit, dans le Sefer Torah, on peut mettre du calcatum même pour la paracha de Sota, parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour la Sota. Il faut que le paragraphe de Sota soit écrit spécialement pour la Sota, et donc c'est seulement quand on l'écrit spécialement pour la Sota qu'on ne doit pas mettre de calcatum dans l'encre. Amar Ravirmiya a dit, l'imchok la minatora et kabinayu, donc justement la différence, c'est est-ce qu'on peut effacer le paragraphe de Sota qui est dans le Sefer Torah pour la Sota. Donc c'est ça la différence entre la version de Rabbi Yehuda et la version de Rabbi Yaakov. Vane Tanae qui ane Tanae. Et l'Agma ajoute que ces deux Tanaïm, Rabbi Yaakov et Rabbi Meir, Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, pardon, ils ont la même machloquette que ces autres Tanaïm, des Tania, qu'on enseigne dans la Breita, en Megillata Keshera Lashkot Basota Acheret. Donc Tanakama dit que une Megillah, donc un paragraphe de Sota qui a été écrit pour une certaine femme, et finalement cette femme a avoué qu'elle a fait une Avera, et donc elle est dispensée de boire. À partir du moment où elle admet qu'elle a fait une Avera, on ne lui fait pas boire, simplement elle va devoir se séparer de son mari. Donc Tanakama dit, on ne peut pas récupérer cette Megillah de Sota qui a été écrite pour elle, pour l'utiliser pour une autre Sota. Rabbi Achai bar Yoshia Amar, alors que Rabbi Achai bar Yoshia a dit, Megillata kshera lashkot basota acheret, cette Megillah peut servir à donner à boire l'eau dans laquelle on l'a effacée pour une autre Sota. Donc, on voit là aussi que il y a une machloket, est-ce que la Megillah doit être écrite spécifiquement pour la Sota ou pas? Selon Tanakama qui dit qu'elle doit être écrite, qu'elle n'a pas besoin d'être écrite spécialement pour cette Sota, donc, qui dit que elle doit être écrite spécialement pour cette Sota, donc on ne peut pas utiliser la paracha de Sota du Sefer Torah, alors que d'après Rabbi Achai bar Yoshia, on peut utiliser la paracha du Sefer Torah, puisque ça n'a pas besoin d'être, c'est pas nominatif si on peut dire, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être fait l'Ishma, ça n'a pas besoin d'être fait pour cette Sota en particulier. Amar Rav Papa repousse ça et dit Dilma Lohi, peut-être que non, peut-être que s'il ne s'agit pas de la même machloket, Adkan lo kamar tanakama atam, ela kevan de intik le shum rachel, tout lo adram minatka le shum lea. Peut-être que Tanakama qui a dit que une paracha de Sota qui a été écrite pour une certaine femme, on peut pas l'utiliser pour une autre femme, c'est seulement dans ce cas-là, parce que comme ça a été détaché, c'est-à-dire ça a été limité au nom de Rachel, c'est plus fait pour les autres femmes, on l'a fait spécialement pour Rachel. Donc, on ne peut plus maintenant l'utiliser et la réserver au nom de Léa. Puisque, en la réservant à Rachel, on a exclu toutes les autres femmes. Aval Gabé Torah des Stamar Mirteva, alors que la paracha de Sota qui est écrite dans la Torah, donc elle a été écrite Stam, ça veut dire, elle n'est pas, c'était pas pour une personne en particulier, Achinami de Markinan. Peut-être que là, Tanakama sera d'accord qu'on peut utiliser cette paracha de Sota pour l'effacer et donner à boire à n'importe quel Sota. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, et Rav Nachman bar Yitzhak lui aussi conteste ce rapport entre les deux machlokot et dit Dilma Lohi, peut-être que ça ne correspond pas, les deux machlokot ne correspondent pas. Adkan lo kama Rabbi Achai bar Yoshia atam, ela dehtiv miat leshum Sota baolam. Peut-être que ce que Rabbi Achai bar Yoshia a dit, c'est seulement là-bas, parce que cette paracha de Sota a été écrite pour une Sota en général. Donc, ça veut dire que comme ça a été écrit pour une Sota, même si c'est pas celle-là, mais une autre, mais ça a été écrit pour une Sota, donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour celle-là aussi. Aval Gabetora de Leitlamed Ktiva, Achinami de Lomarkinan. Alors que la paracha de Sota qui était écrite dans la Torah, elle a été écrite pour étudier, mais pas pour maudire une Sota. Donc on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'utiliser pour la Sota. Velletle, Ragma demande, Velletle de Rabbi Achai bar Yoshia ditnan, mais est-ce que Rabbi Achai bar Yoshia, qui a dit que on peut utiliser la Megillah d'une Sota pour une autre Sota, est-ce qu'il ne pense pas à ditnan, ce qu'on enseigne à la Mishnah, Katav get le garesh et ishto, que s'il y a un homme qui a écrit un get pour divorcer sa femme, Venimlach, il a changé d'avis, finalement il a décidé de ne pas la divorcer, ou Metsao ben Hiro, et il y a une autre personne de la même ville que lui qu'il a rencontré, Ve'amar Shimcha Kishmi, Ve'shem Ishtecha Kishem Ishti, et il a dit, ton nom est comme mon nom, et le nom de ta femme est comme le nom de ma femme, donc je vais réutiliser ton get pour divorcer ma femme. Dans le get apparaissent le nom du mari, le nom de la femme, et le nom de leur ville. Et là, tout correspond. Donc il veut réutiliser ce get, parce que tous les Gareshbo, il ne peut pas l'utiliser pour divorcer sa femme. Pourquoi? Parce que dans le pasouk c'est écrit avec Katavla, il lui écrira, donc c'est-à-dire que ça doit être écrit spécifiquement pour elle. C'est-à-dire qu'on doit avoir la kavana, l'ishma, de l'écrire pour cette femme. Or, l'agma demande, ici aussi pour la paracha de Sota, c'est écrit Ve'asala, et il lui fera. Donc là aussi, ça a l'air de devoir être spécifique pour cette femme. Donc, comment se fait-il que Rabbi Achai Bar Yoshia, il dit que on peut l'utiliser pour une autre sota. L'agma dit, achi ashta, est-ce que c'est comparable? Hatam ve'katav la k'tiv, bainan k'tiva l'ishma. Là-bas, à propos de Gad, qu'est-ce qui est écrit? Ve'katav la, il écrira pour elle. Donc l'écriture doit se faire l'ishma. Et donc on ne peut pas réutiliser le get pour une autre divorcer une autre femme, même si le mari et la femme ont le même nom et qu'ils sont de la même ville. Haha, alors que ici, par rapport à la paracha de Sota, qu'est-ce qui est écrit? Ve'asala active, c'est écrit ve'asala, c'est pas écrit ve'katav la, mais il lui fera, ba'inan asiya lishma. Ce qu'on a besoin, c'est asiya lishma, c'est pas k'tiva lishma, c'est pas l'écriture qui doit être faite lishma, mais c'est l'acte de Sota qui doit être fait l'ishma, c'est-à-dire Asiya Dida Mechikahi. Et la Gemara explique que la Asiya, c'est quoi l'acte de Sota? C'est effacer la paracha de Sota. Ça doit être fait spécifiquement pour cette Sota. Mais l'écriture, elle peut ne pas avoir être écrite pour cette Sota spécifiquement. Amar Rabbi Acha Bar Chanina. Rabbi Acha Bar Chanina a dit Galoui veyadou alifne mishamar veya olam, shen bedoro shel Rabbi Meir kemoto. C'est quelque chose de dévoilé dessus, devant celui qui a dit, et par sa parole, le monde fut, donc c'est connu d'Akadash Baruch Hu, que il n'y avait personne qui était à la hauteur de Rabbi Meir dans toute sa génération. Ou mifne mal au kavu alacha kemoto. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim n'ont pas fixé que systématiquement la halakha soit comme Rabbi Meir, shelo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato, parce que ses amis ne pouvaient pas comprendre exactement ce qu'il pensait. Ça veut dire que il n'arrivait pas à savoir le fond de sa pensée. Pourquoi? Shaya omer al tamet tahor umar elo panim, il était capable de dire sur quelque chose qui est tamé qu'il est tahor en donnant des arguments pour prouver que c'est tahor. Altaor tamé ou mar elopanim, et dire sur quelque chose qui est tahor qu'il est tamé, et donner des arguments qui étaient acceptables. Donc, il était capable d'argumenter dans les deux sens, et dans le sens de ce qui était la réalité, donc ce qu'il pensait, et dans un autre sens, et il pouvait pas savoir quand est-ce que Rabbi Meir pensait vraiment comme ça, ou quand est-ce qu'il disait ça simplement. Si on peut dire en tant qu'exercice, ça veut dire pour montrer qu'il y a une possibilité aussi de comprendre les choses différemment. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas fixer que la halakha soit comme lui à chaque fois. Tana, on en sait un vrai état, le Rabbi Meir Shemo. En réalité, son véritable nom n'était pas Rabbi Meir, il est Rabbi Nehorai Shemo. Mais son nom était Rabbi Nehorai. Venama Nikra Shemo Rabbi Meir. Et pourquoi est-ce que on le surnommait Rabbi Meir? Shehu Meir Ene Chachamim Balakha, parce qu'il est clair les yeux des Chachamim dans la halakha, justement par cette capacité à argumenter et à expliquer les choses, il éclairait les yeux des Chachamim dans la halakha parce qu'il leur permettait de mieux comprendre la halakha. Velo Nehorai Shemo et la Rabbi Nechemia Shemo. Et en réalité, Nehorai, c'était pas non plus son nom d'origine, mais son nom d'origine c'était Rabbi Nechemia, Vemrela Rabbi Lazar Ben Arach, et d'autres disent que c'est Rabbi Lazar Ben Arach, Shemo. Velama Nikra Shemo Nehorai. Alors pourquoi est-ce que on a pris l'habitude de l'appeler Nehorai, Shemanhir et Nechachamim Ba'alacha, parce qu'il fait briller les yeux des Chachamim dans l'alacha. Amar Rabbi, Rabbi a dit, Haide Mechadadna Mechavrai, pourquoi est-ce que je suis plus aiguisé, j'ai l'esprit plus vif que mes amis, Dechazite et Rabbi Meir Mechore, parce que j'ai vu Rabbi Meir, j'ai vu l'arrière de Rabbi Meir. Et Rashi explique que Il était assis dans la rangée qui était juste derrière Rabbi Meir, donc il voyait l'arrière de Rabbi Meir, et c'est ça qui lui a donné la possibilité, le fait qu'il soit proche de Rabbi Meir, lui a permis de développer justement ses capacités à mieux comprendre les choses. Ve'ilu chazite mikame ava mechadad natfe. Et si je l'avais vu de devant, c'est-à-dire si j'étais assis devant lui et je l'avais vu en face, j'avais vu son visage, j'aurais été encore plus aiguisé, encore plus vif. Dirti vayu enecha root et morecha, parce que c'est écrit dans le pasuk vayu enecha root et morecha. Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une valeur au fait de voir son rav, de voir le visage de son rav pour pouvoir voir ses expressions et mieux comprendre ce qu'il dit. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abahu a dit un autre de Rabbi Yochanan, Talmid ayalo le Rabbi Meir v'sumchus shemo. Rabbi Meir avait un élève qui s'appelle Sumchus, Shaya omer al kol davar shel tuma, 48 tamé tuma. Chaque chose qui était tamé, il l'expliquait de 48 manières différentes. Il donnait 48 raisons, 48 arguments, 48 arguments pour expliquer pourquoi c'est tamé. Al kol davar shel tahara, 48 tamé tahara. Et aussi pour tout ce qui était tahor, il donnait 48 raison. Tana, on va enseigner dans la Braïta, Talmid Vati Kaya Beyavne. Il y avait un Talmid qui était très très fort à Yavne, très doué. Shaya Meter Tasheret Bimea Vachamishim Ta'amim. Qui donnait 150 arguments pour rendre Tahor un Sheretz. Donc le Sheretz, le cadavre d'un Sheretz, la Torah dit que il est tamé, et lui trouver 150 arguments pour le rendre tahor. Alors, toi, te pose la question, en quoi ça s'appelle être fort, le fait de rendre tahor un chéretz alors que la Torah l'a rendu tamé. Et toi, te explique, au nom de Rabbeinu Tam, que en réalité, c'était pas de la touma de chéretz, mais de certaines toumaot, la touma de Nevela, que ça ne rend pas tamé Bemassa, etc. Donc, il dit, par rapport à certaines toumot, c'est ça qu'il justifiait que c'était tahor, même si à la base le shéret s'est tamé, comme c'est écrit dans la Torah. Amar Ravina a dit, Ani adun vatarenu. Moi aussi je vais argumenter et je vais rendre tahor le shéret. Comment ça? Uma nachash shememi tumar betuma tahor. Si déjà le serpent qui tue les animaux ou les hommes et donc qui multiplie la touma, puisque lorsqu'un animal, une béhéma, meurt, elle rend tamé, la nevela rend tamé. Lorsqu'un homme meurt, il rend tamé, c'est la touma tmet. Et malgré tout, le serpent lui-même, il fait pas partie de la liste des shratzim qui rend tamé. Donc lui-même est tahor. Un serpent mort ne rend pas tamé. Sheretz shen memit umarbe touma lokol sheken. Un sheretz, un des 8 shratzim que la Torah a cité, qui ne tue pas. Les shratzim, ce ne sont pas des bêtes qui tuent. Et donc elle ne multiplie pas la touma, le kol sheken. Donc est-ce que c'est pas un kal vachomer à plus forte raison que ils devraient être eux-mêmes tahor? Veloi. Ragma repousse cet argument, elle dit non, cet argument n'est pas valable. Mais c'est kots be'alma ka'avid, le serpent, il agit simplement comme une épine. Ça veut dire que c'est pas lui qui génère la touma, simplement il agit comme une épine qui tue l'homme ou la bête. Et le résultat, c'est comme ils sont morts, alors ils ont de la touma. Mais c'est pas le serpent qui leur donne la touma. Donc, on ne peut pas faire un kavachomer à partir de ça. Amar Rabbi Abba Mar Shmuel, Rabbi Abba Adino de Shmuel, Shalosh Shanim Nechiku Bet Shammai Bet Hillel. Pendant 3 ans, il y avait une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alalu Omrim Alacha Kemotenu, Alalu Omrim Alacha Kemotenu. Les uns disaient, l'Alacha est comme nous, en général, et les autres disaient, non, l'Alacha est comme nous. Yatsa Batkol Vamra. Il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit, Elou va Elou divré Elokim Chaim Hen. Les deux sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Les deux opinions sont acceptables. Ve'alacha ki bet Hillel, mais l'alacha est comme bet Hillel. Donc ça veut dire que, théoriquement, les deux opinions peuvent être vraies. Seulement l'alacha est comme bet Hillel. Mais si effectivement les deux opinions sont valables, alors pourquoi Beth Hillel ont mérité que la halakha soit tranchée comme eux? Parce que ils étaient agréables et patients, et qu'en plus, ils enseignaient leur avis et l'avis de Beit Shammai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, ça veut dire que quand Beit Shammai donnait un argument, Beit Hillel ne méprisait pas leur argument. Donc par exemple, quand Beit Shammai rapportait un pasouk, Beit Hillel répondait à leur argument, pourquoi est-ce que, comment est-ce que eux vont expliquer ce pasouk pour que ça s'accorde avec leur propre avis. Donc au lieu de ne pas faire attention à ce que Beit Shammai disait, eux écoutaient ce que Beit Shammai disait et répondaient à leur argument. Et Rashi rapporte un exemple, la fameuse machloket au début de Masechet Brachot entre Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai qui pense que quand on lit le Kriyat Shema le matin, il faut être debout et le soir il faut être couché parce que c'est écrit Ushor Becha ou Kumecha. Et Beit Hillel disent non, c'est écrit Ulertecha Baderer. De là on apprend que on peut lire dans n'importe quelle position. Et il continue Beit Hillel dans la Mishnah et disent Imken Lama Neema Ushor Becha ou Kumecha. Alors si c'est comme ça, pourquoi le pasouk dit Ushor Becha ou Kumecha? Becha Shevne Adam Shochvim ou Becha Shevne Adam Omdim. Et ils expliquent, ça veut dire à l'heure où les gens se lèvent et à l'heure où les gens se couchent, c'est pas qu'il faut lire dans la position debout et la position couchée, mais à l'heure où on se lève et à l'heure où on se couche. Donc ils ont répondu à l'argument de Beit Shammai, ils ont écouté l'argument de Beit Shammai, ils y répondent, ils ne l'ignorent pas. Veload, et non seulement ça, il a Shemak Dimim, Divré Beit Shammai, Divréhem, ils font devancer Beit Shammai à eux-mêmes. Keota Sheshaninu, comme ce qu'on a enseigné à Mishnah dans Maseret Souka, Mishaya Rosho Verubo Basuka Veshulchano Betoch Habayit. Donc la Mishnah dit que celui qui est assis, lui il a son corps, c'est-à-dire sa tête et la majorité de son corps dans la Souka, mais sa table est en dehors de la Souka, dans la maison. Beit Shammai Poslim ou Beit Hillel Marchirim. Beit Shammai pense que c'est pas valable, Beit Hillel pense que c'est valable. Alors là, la Gma dans Souka explique qu'en fait il y a une double machloket ici entre Beit Shammai et Beit Hillel. Une première machloket, lorsque on a une grande souka et que cette souka est attenante à la maison, mais que la table n'est pas dans la souka mais dans la maison, où là Beit Shammai dit qu'il ne faut pas s'asseoir comme ça parce qu'on craint qu'il se déplace autour de la table et que finalement il se retrouve dans la maison et pas dans la souka, alors que Beit Hillel pense qu'il peut s'asseoir comme ça. Et deuxième machloket par rapport à la taille de la souka, quelle doit être la taille de la souka, est-ce qu'il faut qu'on puisse mettre une table dans la souka ou pas? Beit Shammai pense qu'il faut pouvoir mettre une table dans la souka, Beit Hillel pense que non, il suffit qu'il y ait la taille pour la majorité de son corps, on n'a pas besoin de pouvoir rentrer aussi une table dans la souka. Alors ça, c'est cette machloket, c'est une des exceptions, la halakha est comme Beit Shammai et pas comme Beit Hillel, dans ces deux points. Amrou Beit Hillel et Beit Shammai, et la Mishnah raconte que Beit Hillel ont dit à Beit Shammai, Loka chaya maase shalchou zikne Beit Shammai zikne Beit Hillel evaker et Rabbi Yochanan ben Achoranit. Est-ce que il n'y a pas eu une histoire comme ça? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé lorsque les anciens de Beit Shammai et les anciens de Beit Hillel ont été rendre visite à Rabbi Yochanan ben Achoranit? Donc on voit qu'ils ont cité d'abord zikne Beit Shammai avant de dire zikne Beit Hillel. Donc on voit qu'ils faisaient du kavod à Beit Shammai, c'est ce que la Gemara disait avant. Umetzahu yoshev rosho verubo basuka veshulchanu betoch habayit. Et ils l'ont trouvé assis dans sa souka, et alors que sa table était dans la maison. Et Beit Hillel pense que les kenim de Beit Shammai et de Beit Hillel ne l'ont rien dit. Amrou l'aim Beit Shammai. Alors Beit Shammai leur ont dit, Misham Reaya, est-ce que vous apportez une preuve de là-bas? Afen Amrou lo im kaneita noeg lo kiyamta mitzvah souka miyamecha. Effectivement, l'histoire là-bas, c'est que les kenim de Beit Shammai lui ont dit, si tu fais toujours comme ça, tu n'as jamais accompli la mitzvah de Souka. Et la Gemara conclut, la mettra chez quoi la mashpil atzma kadosh baruchu magbio. Ça vient nous enseigner que tout celui qui est humble, qui se rabaisse, qui est humble, à kadosh baruchu l'élève et lui donne du kavod. Vechol amagbia atzma kadosh baruchu mashpilo. Et inversement, tout celui qui est orgueilleux, à kadosh baruchu le rabaisse. Vechol amechazer la gdula, gdula borachat mimenu. Tout celui qui poursuit le kavod le fuit, et collaborer minakdoula, doula mechadera tacharav. Et celui qui fuit le kavod le poursuit. Et tout celui qui cherche à bousculer l'heure le bouscule. Ça veut dire que celui qui voit, qui cherche, par exemple, à s'enrichir, et où il cherche du kavod, et il voit que ça ne marche pas, qu'il n'y arrive pas, et que malgré tout il s'entête et il va faire toutes sortes de choses pour arriver à ses fins, Donc il essaye, c'est ce qu'on appelle essayer de bousculer l'heure, ça veut dire essayer de faire en sorte que ça arrive rapidement. Finalement, l'heure va le repousser et il va pas arriver à ses fins. Mais kol hanitrem finisha, shaou menetlo. Par contre, celui qui se laisse repousser par l'heure, c'est-à-dire que quand il voit que ça ne fonctionne pas, il arrête d'essayer. Finalement, son temps arrivera, son heure arrivera, où il aura ce qu'il voulait. Alors dans cette histoire, on voit que la halakha a été fixée comme Beth Hillel à partir d'une bat kol. Nous, on avait déjà vu que dans Agmara dans Bava Metzia, c'est écrit que En Mashgichin be bat kol. Alors, on avait vu plus haut dans l'Agmara qu'il y avait une machloquette. Est-ce que on suit cette bat kol de Beth Hillel ou pas? Finalement, nous on sait que jusqu'à aujourd'hui, la halakha est comme Beth Hillel à partir de cette bat kol. Alors, comment se fait-il? Les Mefarshim posent la question. Comment se fait-il que cette bat kol on l'admet, alors que la bat kol dans Bava Metzia, dans la machloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, on n'a pas accepté ce qu'elle a dit quand elle a tranché la halakha comme Rabbi Eliezer. Et ils répondent que il y a une différence, c'est que là-bas, Rabbi Eliezer était en machloquette contre le Rabbim. Donc là, on a des règles qui sont déjà établies. Yachid v'Rabbim halakha k'Rabbim. Donc ça, une fois que la halakha est déjà tranchée sur terre, une bat kol ne peut pas intervenir. Mais là, dans la machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'était une machloquette qui n'était pas tranchée. Parce que, d'une part, Beth Hillel était plus nombreux que Beth Shammai, mais de l'autre côté, Beth Shammai était plus fort que Beth Hillel. Et donc la halakha n'était pas tranchée entre eux. C'est pour ça que quand la bat kol intervient et dit la halakha est comme Beth Hillel, là, c'est acceptable. Tanou Rabbanan, on enseigne à Breta, Shtei Shanim Umertza Nechleku Beth Shammai Beth Hillel. Pendant 2 ans et demi, il y avait une machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alalou Omrim Noachlo Adam Shelonivra Yoter Mishenivra. Cela disait que il aurait été mieux pour l'homme de ne pas être créé plutôt que d'être créé. Parce que quand il est créé, il est soumis à la tentation et donc c'est trop dangereux pour lui. Donc il aurait mieux valu ne pas être créé. Et les autres disent, il est préférable pour l'homme d'être créé plutôt que de ne pas être créé puisque ça lui permet de faire des mitzvot et de mériter son lamba. Nimnu vegamru, et finalement ils se sont comptés et ils ont conclu, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de vote et finalement ils se sont tous mis d'accord. Noachlo l'adam shelonivra yoter mishenivra. Il aurait été mieux pour l'homme de ne pas être créé plutôt que d'être créé. Archar shenivra, il fâche pêche même à ça. Mais maintenant qu'il a été créé, ce qu'il doit faire pour pouvoir donc surmonter ce problème des tentations, il fâche pêche même à ça. Il devra analyser ses actes. Alors, il fâche pêche même à ça. Archar explique, c'est-à-dire ses actes passés pour vérifier s'il a fait quelque chose d'interdit, s'il a transgressé des averot, et dans le cas où il a transgressé des averot, qu'il fasse tshuva. Donc, puisqu'il y a la possibilité de tshuva, donc ça permet, c'est l'antidote au problème des tentations. Vamrela yemashmej memasav, il y a une autre version qui dit yemashmej memasav, là c'est par rapport aux actes à venir. Avant d'agir, analyser pour ne pas faire une avera, en étant, comme Rashi explique, en étant mechashev efsed mitzvah keneged shara, combien on perd maintenant à la mitzvah, mais par rapport à la récompense qu'on recevra, et ce qu'on gagne en faisant une avera, par rapport à ce qu'on va perdre quand on va être puni.